Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous. Dans Décryptage, ce soir, est-ce une provocation ou bien une réelle menace ? Le président américain Donald Trump entend prendre le contrôle de Gaza et en chasser les Palestiniens. Même le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a semblé quelque peu crispé hier lorsqu'à ses côtés, le président américain a lâché cette véritable bombe diplomatique. Son intention donc de faire main basse sur Gaza dévastée pour mieux la reconstruire et en faire la Côte d'Azur du Moyen-Orient, tout en répétant à nouveau son intention d'expulser les Gazaouis en Jordanie et en Égypte. Stupeur et consternation dans le monde entier, du monde arabe aux pays occidentaux, la folle idée du président américain a suscité une véritable levée de boucliers, inacceptable, délirant. Mais que cherche donc Donald Trump avec cette nouvelle provocation, qui plus est en plein processus de paix encore fragile sur Gaza? On en parle ce soir avec nos invités. En ligne avec nous, Jean-Paul Chagnolo, professeur émérite des universités, président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée Moyen-Orient, co-auteur des livres « Atlas du Moyen-Orient » et « Atlas des Palestiniens » paru aux éditions Autrement. Bonsoir.
Bonsoir.
Et à mes côtés dans ce studio, Nicolas Falaise, qu'on ne présente plus, grand reporter au service international de RFI. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous deux. Jean-Paul Chagnolo, on connaissait déjà la volonté de Donald Trump de faire, comme il l'a dit, le ménage à Gaza, d'expulser les Gazaouis. Que recouvre, selon vous, cette volonté nouvelle de prendre possession de la bande de Gaza à long terme?
Je crois que, comme beaucoup de monde, on est tous sidérés et on a du mal à comprendre qu'une telle proposition puisse être faite au XXIe siècle. Ce type de proposition, c'était ce qu'on faisait au XIXe, c'était ce qu'on faisait même au début du XXe siècle, c'est-à-dire les transferts de population, c'était même légitimé par le droit international. Il y avait des traités, comme par exemple en 1923. Mais c'est justement contre tout ça que le nouvel ordre international s'est construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec la Charte des Nations Unies qui prenait l'absolu contre-pied de tout cela. Donc c'est vraiment un retour en arrière. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, évidemment, c'est que si ça se mettait en place, ou du moins s'il y avait des initiatives qui tendaient à le mettre en place, c'est évidemment à coup sûr l'ouverture d'un chaos, d'une séquence extrêmement mortifère. Enfin, c'est absolument incroyable les conséquences que ça pourrait avoir, à la fois évidemment à Gaza, en Cisjordanie, et puis dans les pays qui sont directement concernés, c'est-à-dire la Jordanie et puis l'Égypte, qui évidemment vont se battre contre cette idée. Donc c'est quelque chose qui est vraiment une production de chaos mortifère à tous les. Et puis il y a un troisième élément aussi, c'est que ce type d'initiative, elle est extrêmement grave justement par rapport au système international, parce que si le président de la première puissance du monde lance des idées pareilles, aussi mortifères et aussi méprisantes par rapport au droit international, que va réagir quelqu'un comme Poutine ou bien comme la Chine par rapport à Taïwan? Donc ça a des conséquences en chaîne qui sont tout à fait considérables.
Et on rappelle que cette idée d'un président américain, ça vient en contravention, en violation à toutes les règles international, vous le mentionnez, déplacer des populations de force, et c'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité selon la CPI.
Ah ben c'est clairement contraire au droit international, au droit international humanitaire. Plus précisément, c'est contraire à la Convention de Genève, et plus précisément encore, c'est l'article 49 de la Convention de Genève qui parle, c'est l'interdiction des transferts forcés de population. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ça se faisait avec le droit international dans les années 1920. Tout ceci appartient en principe au passé. Et là, c'est tout à fait un crime de guerre. Et puis, si on imagine la manière dont ça peut être mis en œuvre, on voit quel autre type de crime on pourrait aboutir, en particulier des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire une attaque systématique contre une population civile. On passerait aussi à la catégorie des crimes contre l'humanité. Donc, c'est quelque chose d'aberrant. Mais en même temps, il faut voir que derrière tout ça, et c'est ça qui me paraît aussi, il ne faut pas négliger, c'est que derrière tout ça, il y a tout de même une idée qui n'est pas nouvelle, parce que c'était celle de la droite et de l'extrême droite israélienne. Il y a eu des déclarations de ministres qui souhaitaient que une population gazaouie soit exfiltrée vers le sud, vers Rafah. Et on peut se souvenir, il y a quelques mois, l'Égypte avait même construit une zone avec un mur en béton, de telle façon que si il y avait des dizaines ou des dizaines de milliers de Palestiniens qui traversent la frontière à Rafah, ils n'aillent pas plus loin en Égypte. Donc tout ceci est aussi renvoie à des réalités très concrètes. C'est ce que souhaite, quand je dis la droite et l'extrême droite, c'est en fait une bonne partie du gouvernement qui rêve de ça, mais sans, certains l'ont dit. C'est repris par le président des États-Unis. C'est quand même énorme. Et puis par ailleurs, il ne faut pas oublier un point, c'est que juste un cran en dessous, mais qui est déjà tout à fait contraire au droit international, c'est un soutien majeur à la politique de colonisation et peut-être la volonté d'annexer la Cisjordanie. Donc vous voyez, on est dans différents degrés qui à tous s'éloignent complètement du droit international et prennent évidemment à contre-pied toute forme de tentative de règlement politique du conflit israélo-palestinien.
Nicolas Falaise, ce plan, hein, on l'a dit, a suscité un tollé international, à commencer par les principaux concernés, les Palestiniens, mais également la Jordanie et l'Égypte, qui ont réitéré leur opposition au déplacement des Gazaouis, Jean-Paul Chagnolot le mentionnait, mais que Donald Trump, ce soir encore, se fait fort de convaincre, là encore, est-ce que c'est crédible, est-ce qu'il y a la moindre chance que Jordaniens et Égyptiens changent d'avis sous pression américaine?
Alors, c'est sûr qu'il y a un grand nombre d'obstacles. On vient de parler de celui du droit international qui peut effectivement être piétiné. Il y a la souveraineté des États voisins qui est évidemment défiée lorsqu'un président américain dit c'est à tel ou tel pays, la Jordanie et l'Égypte, d'accueillir des populations déplacées. Et puis il y a évidemment un autre niveau de réaction, d'interprétation, de perception de ce qui a été dit par Donald Trump, c'est le niveau palestinien. Parce que lorsqu'on parle de la population de Gaza, on parle d'une population qui, historiquement, est composée à 75-80% de réfugiés, de déplacés de l'époque du début du conflit israélo-palestinien 1948. Donc le traumatisme du déplacement, il est très présent dans la population palestinienne et dans la population palestinienne de Gaza en particulier, qui vient de vivre ces derniers mois une guerre qui a déplacé un grand nombre d'habitants de la bande de Gaza de leur foyer. Donc on voit bien que ce que fait planer Donald Trump sur ces gens, c'est de revivre à nouveau et sans cesse ce traumatisme du déplacement forcé.
Pour la troisième génération de réfugiés palestiniens.
Donc, il faut rappeler que le statut de réfugié palestinien se transmet. Hein. Ce ne sont pas des enfants et petits-enfants de réfugiés, ce sont des réfugiés selon le droit international.
Pour les pays arabes, avoir une occupation militaire américaine de Gaza, c'est une ligne rouge absolue également.
Nicolas. Alors, il y a ce que Donald Trump a dit et ce qu'il n'a pas dit. On ignore quels peuvent être les moyens américains, notamment les moyens militaires américains mis en œuvre pour rendre concret le paysage qu'il semble avoir imaginé lors de sa conférence de presse hier soir aux côtés de Benjamin Netanyahou. Donc on a citer le terme de stupéfaction, c'est très difficile aujourd'hui pour tous les acteurs et tous les observateurs et analystes et journalistes que nous sommes de se positionner par rapport à un tableau aussi disruptif, transgressif que celui qui a été brossé par Donald Trump. Donc la question de l'intervention concrète et éventuellement sécuritaire, militaire américaine reste à définir pour que les uns et les autres se positionnent sur la suite de ce qui a été dit.
Trump prend le risque de fâcher son allié saoudien, ce faisant avec ce genre de projet disruptif, presque dystopique. Son allié saoudien qu'il pousse pourtant à normaliser ses relations avec Israël en échange bien sûr de la mise en place que demande Riyad de la solution à deux États et de la création d'un État palestinien. Pourquoi prend-il ce risque?
Alors, question, parce qu'effectivement, là, on a une collision frontale entre deux projets de l'administration Trump. Le premier, c'est de changer le visage du Moyen-Orient avec une normalisation historique entre l'Arabie saoudite et Israël. l'Arabie Saoudite, depuis des mois, dit ça ne se fera pas sans un État palestinien. La même Arabie Saoudite réagit de façon très vive, très rapide et très ferme dans les heures qui suivent les propos de Donald Trump à la Maison-Blanche la nuit dernière, s'oppose à nouveau à tout déplacement forcé de population et explique que sa position sur l'État palestinien ne sera pas sujette à marchandage. Donc, il va y avoir forcément un arbitrage à faire entre le projet Trump de prolonger les accords d'Abraham avec une paix Arabie Saoudite-Israël et le projet tout nouveau, très surprenant, très déstabilisant et troublant qu'il vient d'énoncer, d'une bande de Gaza Côte d'Azur vidée de ses habitants.
Jean-Paul Chagnolot, est-ce que dans ce projet délirant, on peut voir en tout cas la volonté de Trump d'enterrer justement cette solution à deux États ?
Il l'avait déjà enterré. Le plan qu'il avait proposé quand il était au pouvoir dans son premier mandat était quelque chose qui pouvait se résumer en une phrase. C'était tout pour Israël et presque rien et beaucoup plus tard et à condition de telle ou telle condition pour les Palestiniens. C'était vraiment quelque chose qui était totalement asymétrique. C'était donc une façon d'enterrer le droit international puisque c'est le droit international qui porte cette solution à deux États. Donc il ignore le droit international et dans le droit international il ignore toutes les résolutions dont d'ailleurs celle du 10 juin dernier qui est du 10 juin 2024, qui rappelait aussi que la perspective après cette tragédie devait être un chemin vers la solution à deux États. Tout ça, évidemment, il le piétine complètement. Moi, je crois que cette idée, je l'espère en tout cas, va connaître, comme c'est déjà le cas en l'espace de quelques heures, une levée de bouclier, parce qu'en plus, elle aura des implications terribles un peu partout. Le fait simplement d'imaginer des troupes américaines qui débarquent du côté de Gaza pour chasser 2 millions de personnes ou 1 million et demi de personnes, c'est en soi déjà un conflit énorme parce que, comme ça a été dit très justement à l'instant, les Palestiniens ont la terre, c'est leur terre et ils ont évidemment cette obsession de la Nakba qui a marqué toute l'histoire palestinienne. La Nakba, c'est-à-dire en fait... l'exil, ils ont été chassés de leurs terres et 80% au moins des Gazaouis font partie de ces gens, de ces gens qui ont été chassés, qui sont réfugiés à Gaza. Donc c'est tout à fait important. Mais il y a un autre point aussi que je voudrais souligner, c'est que derrière cette espèce de posture maximaliste et mortifère, il y a aussi l'idée que ça veut dire qu'il soutient le gouvernement Netanyahou dans toutes ces postures extrêmes et qui sont un degré en dessous, si je puis dire. C'est-à-dire, comme j'évoquais tout à l'heure, l'intensification de la colonisation avec comme objectif, depuis très longtemps pour Netanyahou et tous les membres de sa coalition, et a fortiori l'extrême droite, qui est une annexion de la Cisjordanie. Donc on est dans cette posture où on se focalise sur cette idée tragique dont on vient de parler, mais derrière se profile un soutien massif à la politique qui est tout aussi mortifère, parce que vouloir annexer la Cisjordanie, si Trump appuie cette posture, ça veut dire qu'on transforme véritablement toute cette région en un système d'apartheid, parce qu'évidemment les Palestiniens qui seront sous annexion ou qui seront en Cisjordanie annexée n'auront strictement aucun droit, donc il y aura une discrimination structurelle. Donc il faut bien voir les deux niveaux, le niveau de cette posture qui consiste à privilégier, si j'ose dire, le nettoyage ethnique, le transfert forcé de population, avec toutes les aberrations qu'on vient de décrire. Et puis, il y a derrière ce soutien maximaliste à opposition, elle-même maximaliste, du gouvernement israélien actuel. Donc, dans tous les cas de figure, l'horizon est sombre. Et sombre parce qu'évidemment, les Palestiniens n'accepteront jamais ça. Et je pense aussi que les opinions arabes, et par conséquent, quelque part aussi les régimes arabes, comme l'Arabie Saoudite, ne peuvent pas accepter ça. Donc on est là dans une incandescence très forte qui conduit à des risques de violence vraiment très importants.
Qui pourrait profiter de ces propositions de Donald Trump, Nicolas Falaise ? On pense au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Est-ce que ça pourrait pas lui offrir une bouée de sauvetage politique au moment même où une partie de son gouvernement, la partie la plus extrémiste, menace de quitter la coalition gouvernementale si un accord de paix est signé avec le Hamas ?
Ça s'est même exprimé de façon très très claire hein, dans les heures qui ont suivi les propos de Donald Trump. Itamar Ben-Gvir, ministre qui a récemment démissionné de son poste de ministre de la Sécurité nationale pour protester contre l'accord de cessez-le-feu, a dit qu'il était prêt à revenir au gouvernement pour participer à la mise en œuvre du plan Trump pour Gaza. Donc évidemment, des propos et des propositions aussi radicales que celles énoncées par Donald Trump pour la bande de Gaza ne peuvent que flatter la mouvance la plus à droite de la coalition au pouvoir en Israël, hein, le camp nationaliste religieux, qui rêve effectivement de se débarrasser de la question palestinienne en se débarrassant des Palestiniens eux-mêmes et qui rêve et réclame et revendique une annexion totale ou partielle de la Cisjordanie. Un point d'ailleurs qui a été un petit peu occulté par les déclarations sur Gaza de la conférence de presse de Benjamin Netanyahou et Donald Trump, interrogé par une journaliste sur les demandes de l'extrême droite israélienne d'annexer tout ou partie de la Cisjordanie, Donald Trump répond « c'est en cours de réflexion, vous aurez une réponse d'ici 4 semaines ». Donc il faut s'attendre à une position américaine plus claire, plus tranchée sur la possible annexion ou pas d'une partie de la Cisjordanie par Israël dans les prochaines semaines. Donc là, à nouveau, on risque d'être dans quelque chose qui renverse la table et amène tout sauf de la stabilité. Mais évidemment, il faudra attendre de savoir ce qu'est la position définie par l'administration américaine.
En attendant d'en savoir plus, Jean-Paul Chagnolot, est-ce que ces déclarations tonitruantes de Trump, mortifères, dites-vous d'ailleurs, ces projets de mainmise sur Gaza et d'éviction des Palestiniens sont dangereux pour le processus de paix actuel, surtout pour cette trêve, hein, toujours dont les négociations viennent de reprendre au Qatar, paix extrêmement fragile entre Israël et le Hamas?
Bah, je crois que ça percute directement la deuxième phase. La deuxième phase qui est en voie de négociation, comme vous le dites, elle devrait s'ouvrir au mois de mars, dans pas si longtemps, avec en particulier un retrait des troupes israéliennes, et puis bien entendu libération d'otages avec en échange libération de prisonniers palestiniens. Mais l'idée même d'un retrait des troupes israéliennes paraît, dans ce contexte, tout à fait un peu probable, parce que dans cette configuration, Netanyahou sait très bien qu'il a le soutien, et bien plus encore que ça, de Netanyahou. Et donc, comme une partie de sa coalition ne veut pas entendre parler d'une fin de guerre, d'ailleurs lui-même l'a dit, que la guerre pourrait reprendre, donc je suis assez pessimiste sur les chances de voir aboutir les négociations actuelles qui pourraient déboucher sur cette deuxième phase, qui serait donc vraiment, qui impliquerait le retrait des troupes israéliennes. C'est difficile d'imaginer le retrait des troupes israéliennes dans ces conditions-là, parce qu'en plus, ça voudrait dire évidemment que le Hamas contrôle le Gaza, puisqu'il n'y a aucune réflexion politique sur ce qui deviendrait après.
Hein, donc c'est ça. Sur la gouvernance de Gaza, oui.
Ben, le jour d'après.
Et personne n'a de solution, d'ailleurs.
Il y a beaucoup de solutions qui circulent, il y a beaucoup d'idées qui circulent, et en particulier l'idée d'une instance palestinienne qui serait, comment dirais-je, ressourcée, une instance de transition, on appuie avec une coalition internationale de paix qui pourrait accompagner cette instance. Bref, mais ça, c'est un schéma qui implique qu'on prend le chemin d'une vraie négociation pour aboutir à la résolution de la question Israël-Palestine sur des bases qui sont quelque part celle du droit international. Mais on voit bien qu'on n'en prend pas du tout le chemin, malheureusement, et on prend même le chemin inverse.
Quelle réaction peut-on attendre des pays arabes, Nicolas Falaise, face à ce défi mortifère, là, les Palestiniens évacués de Gaza, peut-être une annexion en Cisjordanie?
Alors, ils l'ont exprimé de façon très très claire ces dernières heures, hein, le rejet et le rappel des positions traditionnelles sur les droits des Palestiniens à l'autodétermination et le rejet de tout déplacement forcé de population. Reste à savoir comment va s'engager le dialogue entre les États-Unis et leurs alliés traditionnels dans la région, pays du Golfe, Jordanie, Égypte.
Et les prochains jours seront donc sans doute déterminants. Merci Jean-Paul Chagnolot, président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée, Moyen-Orient. Merci également à Nicolas Falaise, grand reporter au service international de RFI. Mes remerciements également pour la cellule invitée Arnold Assewa et à la réalisation ce soir Fabrice Violet.